Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Début d'automne, nous sommes allés à la rencontre de Carole Tourigny et Thomas Merlin, respectivement responsables fondatrices et designers au sein de Fabunit, un atelier de fabrication en petite et moyenne série d'objets issus de la récupération de déchets plastiques. La Fabunit, une micro-usine générée il y a 2 ans par le 8 Fab Lab installé à Cray. Un Fab Lab, contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication et, rappelons-le, un tiers-lieu où se partage librement un espace de fabrication, mais aussi des compétences et des savoirs.
La Fab Unit, vendredi 4 novembre 2022, 10h30, sur l'écosite à Eure, en Biovallée. Allons-y.
La Fab Unit bénéficie du programme Territoire d'innovation conduit par l'association Biovallée. Retrouvez à ce sujet l'un de nos derniers épisodes « Il est une vallée ». À la Fab Unit, ceci n'est plus un canoë, mais un tabouret. Reportage.
Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, ça tourne.
Le 8 Fab Lab de Cray, qui est un laboratoire de fabrication numérique qui existe depuis 2014.
Carole Tourigny.
Voilà, c'est un endroit ouvert à tous dans lequel il y a des machines à commande numérique. Et l'idée, c'est d'accompagner les gens à réaliser leurs projets à l'aide de toutes ces technologies. Donc de les former, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Comme c'est un endroit où on vient prototyper, créer, tester des choses, il y a des objets ou des produits qui étaient intéressants et qui méritaient d'être produits, c'est-à-dire un endroit, une micro-usine, où on pourrait faire de la moyenne série. Et donc ça, c'était une des premières idées de créer la Fab Unit. Alors on est une petite équipe, opérationnelle en tout cas au quotidien, puisqu'on est deux. Voilà, moi je suis sur l'atelier plastique et sur le pilotage du projet. Et Thomas, qui est designer et sur la conception et l'accompagnement des entreprises, fait toute la partie fabrication, assemblage. Voilà, donc on est deux moutons à 5 pattes qui faisons un peu tout à nous deux. Bon, c'est le lot de tout démarrage de projet, c'est aussi ce qui est très rigolo au début. Voilà, là, il faut que ça évolue un petit peu. Donc, grâce aux subventions manufactures de proximité, on devrait pouvoir embaucher en début d'année prochaine quelqu'un qui nous aidera au moins sur la partie opérationnelle. Et puis, en attendant, du coup, l'intérêt d'être porté par l'8 Fab Lab, c'est qu'on bénéficie alors soit d'aide ponctuelle de l'équipe du 8 et surtout de la direction, de la comptabilité. Enfin, voilà, il y a une structure qui porte derrière et qui nous accompagne sur le montage du projet. C'est pas évident au premier abord de travailler sur le plastique. C'était pas une matière super noble. Est-ce qu'on devrait pas plutôt travailler sur des biomatériaux? C'était un peu les questions qui m'interrogeaient. Et Thomas a réussi à nous convaincre que effectivement, avant de créer des nouveaux matériaux, puisque on continue de produire du plastique à foison, Voilà, il y a tous ces gisements à traiter, la plupart partent à l'enfouissement et donc voilà, c'était non seulement avoir une ressource disponible sur le territoire, mais régler un problème de pollution plastique voilà, qui n'était pas traité, et de rechercher des nouvelles façons de traiter les déchets et de les utiliser sur un territoire.
Qu'est-ce que vous faites ?
Là, je nettoie les plaques qu'on a démoulées ce matin. Du coup, on produit le matin et on démoule et on refait voilà, chaque matin. Donc, quand on a enlevé quand on a démoulé le plastique, eh ben, il faut nettoyer les moules. Voilà, c'est comme la pâtisserie en fait. il faut gratter quand on a sorti le gâteau, il faut nettoyer son moule pour le prochain.
Nous, on a trois créneaux, on va dire. On vend de la plaque brute pour des gens en fait qui vont l'utiliser, donc des artisans, des designers, des artistes ou d'autres professionnels, des petites entreprises qui vont les utiliser pour leurs besoins. Après, le deuxième truc, c'est que on a un designer en interne et aussi des designers associés qui produisent des objets. Donc là, ça va être essentiellement du mobilier, tables, chaises, étagères, voilà, qui sont proposés sur catalogue. Et en dernier ressort, en fait, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui sont séduites par le matériau plastique recyclé, qui savent exactement d'où ça vient, et qui nous demandent du coup de les accompagner à produire un objet pour eux. Donc parfois ils ont juste l'idée, parfois ils ont les fichiers tout prêts et on a juste à les faire. Voilà, et on peut les accompagner de l'idée à la production en série, en passant par le proto ou pas. Voilà, ça dépend. Donc ça, c'est beaucoup de demandes, oui, d'entreprises. Et dans cette troisième demande, il y a aussi des entreprises qui ont des déchets et qui veulent les valoriser et fabriquer avec leurs propres déchets, en fait, des objets qui serviraient à l'entreprise ou à leurs clients. Voilà, donc on travaille aussi sur la valorisation des déchets des entreprises.
Et là, tu peux apercevoir une mezzanine sur laquelle il y a une très grosse imprimante 3D, puisque c'est un des projets de développement qu'on a, d'essayer d'extruder directement du broyat de déchets plastiques sans passer par du fil, et de faire d'imprimer du coup du déchet plastique pour faire des formes beaucoup plus grosses et beaucoup plus complexes que celles qu'on fait à partir des plaques.
Je m'appelle Thomas Merlin. Du coup, je suis designer et du coup, dans l'équipe, j'occupe le poste donc de designer et chef d'atelier. Et du coup, je suis en charge de la partie conception et fabrication des objets et des projets qui passent par à la Fabinit. Avant d'intégrer la Fabinit, j'étais designer indépendant. Du coup, je travaillais dans le domaine de la conception plutôt d'objets. Et j'étais un designer indépendant pendant 10 ans. Et avec toujours, depuis le début même de ma formation, un questionnement par rapport aux limites un peu de la planète et du coup la répercussion que ça pouvait avoir dans mon métier en tant que concepteur, parce que du coup on est responsable un peu de ce qu'on fait, du coup toujours une attention portée à la matière, aux entreprises avec qui je travaillais, etc. Donc toujours un chemin assez tortueux pour moi, parce qu'il fallait que j'aligne mes valeurs personnelles avec celles de mon travail. Et puis jusqu'à ce que finalement je questionne même mon envie de continuer d'exercer ce métier, parce que ouais, ça allait, je ne me retrouvais pas malgré tout. Et s'en arrivait avec la rencontre avec le Fab Lab, Carole et Bertrand, qui étaient présidents du 8. Et à qui je partageais un bureau par ailleurs à Cray. Et du coup, voilà, on se questionne, on partage nos questionnements personnels et professionnels. Et du coup, il y a eu l'émergence de ce projet Fabunit. Et puis moi, mes aspirations perso, où je commençais à regarder ce qui se faisait sur la partie recyclage, qui était intéressante pour moi parce que du coup c'était ne plus prendre de la matière neuve et donc plutôt qu'aller couper du bois, voilà, extraire à nouveau des matières, réfléchir différemment, dire en fait le plastique, il y en a déjà 60 milliards de tonnes, si je ne sais pas de bêtises, qui ont été extraits depuis qu'on a commencé à faire du plastique. Et du coup, en fait, c'est une matière qui est là, et qu'on le veuille ou non, il faut en faire quelque chose. Moi, je viens plutôt de matière noble, le bois, le métal. Et du coup, je me suis confronté à cette matière qui ne m'attirait pas du tout à la base, mais qui a commencé à m'intéresser parce que, entre guillemets, le plastique, on a le droit à l'erreur. Même si on a fait quelque chose à la base, on peut, à partir de cette matière même, la rebroyer, la refondre et en faire quelque chose de neuf. Donc, c'est assez intéressant de se dire, même si le recyclage a ses limites, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de greenwashing et de par rapport au fait que c'est recyclable, c'est certes vrai, mais ça a quand même ses limites, même nous on le voit à notre échelle, mais ça permet quand même d'éviter tout ce gâchis, parce que pour moi on en est arrivé vraiment à un gâchis de la matière, quoi, dans cette truc extractiviste. Donc, en fait, il y en a tellement plein que c'est pas grave, puis ça repousse, puis en fait on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui pour moi la Fabinite c'est ça, c'est on est sur des questions qui sont mondiales, mais ça permet en tant que citoyen mais aussi en tant que professionnel de se redire en local, en fait on peut créer un truc, on peut essayer de réinventer un peu un modèle un peu différemment, et en plus ça crée beaucoup d'interactions et beaucoup de liens entre les gens, entre les entreprises, avec les collectivités. Et en fait, c'est tout ça qui est hyper intéressant, parce que finalement, la Fabinite, c'est pas juste on fait des plaques de plastique, on fait des objets en plastique recyclés. Ça, c'est un truc, mais moi, ce qui donne vraiment le sens, c'est tout ce que ça déroule, en fait, au-delà de tout ça. Et c'est ce qui donne du sens aux objets. Et même en termes d'esthétique... Moi qui suis dans un métier où l'esthétique compte beaucoup, parce que le client final, ce qu'il voit, c'est est-ce que le meuble, l'objet est beau. Et ben nous, on réinterroge cette question de l'esthétique. Parce que quand les gens ils voient notre photo, ils disent « Ouais, il est orange ». Et non, c'est plus ça qu'ils disent, c'est « Il est orange parce que c'est du canot recyclé ». Et du coup, on change complètement notre perception de l'esthétique. Et l'esthétique, elle prend une valeur beaucoup plus profonde. Et les gens commencent à être sensibles à ça, en fait, à l'histoire derrière l'objet. Et on est dans un monde où l'esthétique est hyper importante, et là on vient en fait réécrire une nouvelle chose, quoi.
Ok, et du coup avec une imprimante 3D, vous pouvez faire quel genre d'objet?
Alors là, on peut faire toutes les formes, hein, quasiment. Voilà, il y a quelques contraintes de l'impression 3D, qu'il ne faut pas avoir des dévers trop importants, sinon la matière, elle s'effondrerait. Mais sinon, on peut faire des volumes très, très complexes et différents pour du gros mobilier urbain, on verra les besoins et les demandes. Mais oui, on pourra faire beaucoup plus de choses qu'avec des plaques. Une fraiseuse numérique, voilà, qui permet de découper et de défoncer les plaques de bois ou de plastique qu'on va ensuite assembler, plier pour faire les objets.
Est-ce qu'il y a des projets en matière donc de fabrication d'objets qui pourraient intégrer nos vies quotidiennes.
Bah oui, parfaitement. On est assis, moi sur un tabouret, toi sur un banc, autour d'une table réalisée en plastique recyclé. Donc effectivement, tout le mobilier, il y a des étagères à côté de nous. Là, c'est vraiment les artisans qui commencent à se saisir du matériau. Donc on en a un premier qui a fait une cuisine à Saillant. Donc le plan de travail, les portes de placard, voilà, on peut... En fait, ça remplace le bois. Donc vous voyez la diversité de ce qu'on peut faire avec ça, puisque tout ce qui était en bois ou en résine, enfin dans n'importe quel matériau utilisé jusqu'à maintenant, on peut le faire en plastique recyclé. Voilà, donc on peut faire une grande, grande diversité. On a des plateaux après dans les petits accessoires, hein, porte-savon, plateau de service de table. Voilà, on fait plein de gros et petits objets qui peuvent servir au quotidien. On travaille pour une boîte qui est à Montpellier qui fait des boîtiers en fait où il y a de l'électronique embarquée, et c'est pour assister des malades d'Alzheimer ou à de la rééducation en fait. Voilà. Et donc nous on fait les boîtiers, ils récupèrent tout l'électronique, c'est du réemploi, enfin ils travaillent vraiment sur un produit complètement éco-sourcé, et du coup ils voulaient que le boîtier lui-même soit fait dans une matière dont on connaît la provenance et qui ne soit pas un nouveau matériau. On travaille pour Bibliothèques sans frontières, qui est une grosse ONG, qui là aussi pour faire des boîtiers. Là, c'est pareil, avec du contenu électronique embarqué, pour amener à des populations qui n'ont pas accès à Internet, des contenus d'Internet. Genre, il y a tout Wikipédia dedans, voilà. Et donc, on peut se brancher directement sans accès à Internet à ces contenus. Et donc, nous, on leur fait le boîtier. Donc, eux, par exemple, c'est une série. Tous les mois, on fait 50 boîtiers pour BSF tous les mois. Voilà, ça va être beaucoup de jeunes boîtes qui travaillent sur des produits un peu écolo, type potager d'appartement, tout ce qu'il y a autour du vélo. On a travaillé pour Yuba Bikes. Voilà, donc ça va être ce type de boîte qui cherche, qui a un produit un peu, oui, développement durable, et qui veut du coup le fabriquer dans des matériaux durables.
On travaille sur un proto de chaises à partir de canoës recyclés. Voilà, on a récupéré sur la vallée de la Drôme. Et donc il y a une structure en bois et une assise en canoë recyclé. Donc c'est une plaque de 5 mm qu'on vient plier sur la structure. Voilà, le canoë a l'avantage d'être très souple et donc on peut le mettre en forme sur une forme arrondie. Voilà, alors qu'au départ c'est une plaque.
Et les déchets, d'où viennent-ils ?
Alors jusqu'à il y a quelques mois, on achetait du broyat, nous. Donc il y a un valoriste dans la Drôme, mais qui ne fait pas une matière qui convenait à notre process. Donc on l'achetait à Grenoble, à Clermont-Ferrand, en région, mais pas vraiment sur la vallée. Et on avait pas mal d'appels d'entreprises, pas que des entreprises d'ailleurs, des agriculteurs, des artisans, qui nous disaient: j'ai des déchets plastiques, est-ce que vous les voulez ? Mais on ne savait pas les traiter. Donc c'est pour ça qu'on a impulsé un projet collaboratif là, avec une quinzaine de partenaires, qui a donné Payette, qui est une plateforme de traitement des déchets plastiques de la vallée de la Drôme. Donc avec là des équipements, un déchiqueteur qui a été prêté par GPA et un broyeur que le 8 Fab Lab a mis à disposition de Payette. Et donc les équipes d'Air Trésor ADI peuvent aujourd'hui collecter des déchets de la vallée de la Drôme, les broyer, enfin les traiter, les trier, les broyer. Et du coup, nous, depuis le mois de septembre, on travaille avec des déchets de la vallée. Donc là, on est vraiment en économie circulaire, très localisée sur la vallée de la Drôme, puisque les déchets proviennent de la vallée.
Voilà. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au mois de septembre à Air Trésor, à l'occasion donc de l'inauguration donc de ce projet
paillette, qui est celui, donc, comme vous venez de l'expliquer, de fabriquer à partir de matériaux plastiques, donc des paillettes pour que vous puissiez vous-même fabriquer de nouveaux objets qui auront une vie à durée indéterminée.
Quelques semaines plus tôt, à Air Trésor, dit, lors de l'inauguration du projet Paillettes, une plateforme collaborative de traitement des déchets plastiques pour collecter, trier et broyer certains rebuts du territoire destinés à être enfouis.
Approchez-vous pour que ceux qui sont un peu au soleil. On a une petite prise de parole aussi de Geneviève Girard pour le CITRAD.
CITRAD, syndicat du traitement des déchets Ardèche-Drôme.
Merci. En tous les cas, je suis très contente et très fière d'être à vos côtés aujourd'hui. D'être aussi accompagnée, parce que le CITRAD, je suis présidente du CITRAD, mais je ne suis pas venue toute seule d'ailleurs. Et il y a plusieurs délégués, Marie-Christine Marion, Jean-Pierre Huit, M. Baudouin qui est ici, et Michel Gounon également qui m'a accompagnée. Donc le CITRAD, c'est quand même un territoire très vaste sur la Drôme et l'Ardèche qui traite les déchets en collecte sélective et sur nos centres de valorisation. Mais également, on est là, et d'ailleurs, sur votre plaquette, on a bien vu qu'il était en collaboration, on a travaillé sur, et on vous accompagne sur les projets de territoire, et donc très fiers d'être ici pour représenter justement le CITRAD, et puis de constater comment sur le terrain ça fonctionne, de voir des initiatives particulières qui peuvent être petites, mais il n'y a rien de petit, en fait, je crois que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc on a vu des choses déjà réalisées qui sont assez exceptionnelles. C'est presque dommage qu'on n'en voit pas la réalisation en direct, mais je présume qu'il faut quand même un petit peu de technique et de machine et de bras un petit peu spécialistes. Mais pour autant, voilà, vous êtes ici, on est dans le Diwa, vous êtes capable de recycler des plastiques assez particuliers. Quand on voit les échantillons qui sont aujourd'hui déchiquetés, broyés et qui permettent la réalisation de bancs, de tables et d'autres choses que vous avez inventées, parce que je crois que l'imagination, elle n'a pas de limite, hein, quand on commence à se rendre compte que un déchet, parce que à la base, un canoë qui ne sert plus, eh bien, globalement, il est jeté, il va en déchetterie. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de lui redonner une autre vie, ben, c'est assez exceptionnel. Et moi, je veux que vous remerciez toutes et tous et vraiment vous féliciter de cette initiative et surtout qu'elle fasse école, parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir ici ce projet qui prend corps. L'essentiel, c'est de faire en sorte qu'il se démultiplie.
Ceci est un canoë, c'est un peu notre objet totem, on va dire, qui raconte bien en fait, ce qu'on veut essayer de faire. Du coup, c'est un fauteuil qui a été conçu à partir de déchets de canoë. Donc, c'est des canoës qui ont été récupérés, broyés à paillettes, et avec lequel on a fabriqué un fauteuil. Donc, en fait, c'est vraiment... l'illustration parfaite de ce qu'on voudrait faire, c'est à partir de déchets locaux, et celui-là il est un peu emblématique de la vallée de la Drôme, pouvoir créer des objets utiles. La particularité aussi, c'est que, et c'est là où l'intérêt d'avoir un designer ou quelqu'un de créatif dans l'équipe, c'est justement que chaque gisement de plastique a ses particularités. En termes de couleur, mais aussi en termes de comportement mécanique. Et en fait, le canoë, lui, c'est un plastique qui est assez souple par rapport à d'autres qu'on a pu déjà travailler ici. Donc c'est du PEHD, mais il est souple. Et du coup, l'idée, ça a été de travailler avec ça. Donc on ne peut pas faire exactement ce qu'on fait d'habitude. La plaque seule, elle manque de tenue. Donc ça a été de se jouer un peu de cette contrainte pour en faire un bénéfice à la fin. Du coup, on a réussi à faire un fauteuil qui a une forme assez souple, parce qu'on a pu mettre en forme le canoë sur une structure. Et en plus de ça, on a essayé d'utiliser le plus de plastique possible. Donc d'habitude, pour pallier à la structure Des fois, on utilise du bois, etc. Et là, on a essayé de faire 100% en plastique. On y est presque arrivé. Donc, on a deux... en fait, on utilise une plaque de 15 mm pour faire les côtés du fauteuil, des traverses qui sont réalisées en plastique, et puis toute la partie assise dossier qui est aussi réalisée dans une plaque de 10 mm. Et après, on a deux traverses en aluminium qui permettent d'assurer vraiment la tenue dans le temps du fauteuil, qui ont été réalisées par nos voisins juste en face, qui sont ETSA, donc qui fabriquent des garde-corps, des grandes pièces, des structures énormes d'habitude en alu. Et là, ils nous ont fait une petite traverse, donc qui est réalisée genre à 30 mètres de l'atelier. Et du coup, ça nous a permis de faire un objet, voilà, 100% local, en tout cas sur la partie, la plus grande partie de la fabrication.
On peut monter sur la mezzanine, voir l'imprimante, et voir d'autres protos d'objets. Puis là, on a un petit bureau, on a un manche debout, c'est une série qu'on avait fait pour Perrier à la sortie du confinement.
L'idée, évidemment, c'est d'enlever le tout jetable, enfin de moins jeter, donc tout ce qui est à usage unique, évidemment. Mais même, on veut que les objets soient le plus durable possible. Donc nous, on travaille sur deux choses. Enfin, déjà, le matériau est très costaud, enfin, et peut durer très longtemps, y compris en extérieur, puisqu'on a des plastiques qui sont traités aux UV, donc qui peuvent tenir l'extérieur. Et la deuxième chose qu'on a intégrée, c'est justement la partie design, de faire des objets un peu qualitatifs pour qu'on n'ait pas envie de les changer. Voilà, c'est pas du jetable, c'est un vrai objet, une vraie table, une vraie chaise. On a un coup de cœur, on l'achète et on la garde 10, 15, 20 ans. Avec l'avantage que de toute façon, si on se lasse de la couleur ou qu'on veut changer, on peut ramener à la Fabunit la table, le tabouret, la chaise. Puisque nous, c'est un matériau qu'on peut recycler, on ne va pas dire à l'infini, parce qu'aucun plastique se recycle à l'infini, mais en tout cas une bonne dizaine de fois. Donc vous voyez, si tous les 10 ans ou 20 ans vous changez votre mobilier, ça nous laisse un peu de marge. Et donc on peut recycler ce matériau et le retransformer en plaques et en objets. Tous les déchets plastiques que nous tous mettons dans les bacs jaunes de tri, ça veut dire qu'il y a une filière pour ça, donc les bouteilles en plastique, bouteilles de lait, etc. Il y a déjà des filières de valorisation, c'est recyclé, donc on ne s'occupe pas de ces gisements. Sur les gros gisements industriels, c'est pareil, à partir d'un certain volume, il y a des professionnels qui viennent chercher ces déchets, parce que sur le volume, c'est intéressant pour eux, et ils vont les valoriser d'une manière ou d'une autre. Après, le problème, c'est que ça part souvent assez loin, on ne sait pas toujours où ça va, exactement comment c'est recyclé, mais il y a quand même des filières. Et puis, il y a des déchets qui sont soit propres et assez simples, du coup, issus de l'industrie, mais qui sont des volumes pas assez importants pour que des valoristes s'y intéressent. Donc, ces déchets partent en général en déchetterie et du coup sont enfouis, ou des déchets complexes qu'on va retrouver de nouveau dans les déchetteries. Voilà, ça va être tous les jouets, les sièges auto, tupperware, enfin voilà, tout bassine, enfin tous les objets en plastique qu'on utilise au quotidien, qui eux n'ont pas de filière de recyclage. Donc c'est vers ces types de déchets qu'on se tourne et qu'on travaille en priorité.
Et puis donc notre fameuse imprimante 3D qui va nous permettre de tester le principe de passer directement du broyat. Après, l'idée, c'est pas forcément de rester sur l'imprimante, mais de passer à un bras robot qui imprimera. Mais voilà, ça nous permet de faire les tests avec cette machine qu'on a récupérée du Fab Lab.
On expérimente un modèle, en fait, parce que que ce soit dans la production ou le traitement des déchets, voilà, il y avait un système ultra mondialisé qui fonctionne toujours. Et du coup, là, de relocaliser des productions, de faire des petites plateformes de traitement des déchets en milieu rural, voilà, c'est des choses qui n'existaient pas, voilà, qui démarrent. Et du coup, est-ce qu'il y a un modèle économique pour ça? Est-ce que c'est faisable? Enfin, voilà, c'est tout ça n'est pas sûr. Ça nécessite beaucoup de briques. Là maintenant, on a paillettes, mais on se dit que la logistique, tout ce qui est collecte, transport, est une vraie problématique. Donc là, heureusement, sur la vallée, ça s'organise très bien avec les collectivités, avec les autres partenaires, matériothèques, ressourceries, entreprises. Pour essayer de se mettre tous ensemble pour travailler sur qu'est-ce qu'on fait de nos déchets et comment on les gère à notre échelle de territoire rural. Et est-ce qu'il y a un modèle pour ça? Et ce modèle, vraiment, il n'existe pas. Enfin, c'est à nous de l'inventer, quoi, avec les particularités de notre territoire, puisque d'autres expériences commencent à démarrer sur d'autres territoires. On reçoit beaucoup de porteurs de projets de toute la France et peut-être même bientôt du Québec pour vous dire, voilà, c'est parce que ces modèles n'existent pas et comment on les met en place, puisque plein de territoires ont envie de réfléchir à ces questions.
Le Fab Lab et le Fab Unit, donc lié, bénéficient de ce programme Territoire d'innovation, conduit par BioVallée. Être innovant, pour vous, Carole, qu'est-ce que ça veut dire? Être innovant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ne pas s'arrêter à nos représentations, à nos a priori, à nos convictions. Quelqu'un vient avec une idée et qui porte de manière très volontaire, c'est ça qui va m'attirer et dire « Ok, là, il y a un truc, ne restons pas sur nos idées préconçues et allons voir ce que ça peut donner. » Et c'est vraiment toujours de tirer un fil et de pas se buter, en fait. C'est comme ça que naît l'innovation. On tire un fil et on verra bien où ça nous mène. D'expérience, maintenant, avec le Fab Lab où j'ai vu passer beaucoup de projets, ça mène toujours quelque part. Rarement là où on avait prévu d'aller au départ, mais ça mène toujours quelque part. Donc le truc, c'est à un moment, voilà, prendre le risque, ouvrir, tirer un premier fil, et puis avancer. Et là, il faut rester très agile pour justement changer son projet. Il ne faut pas qu'il soit trop figé pour arriver à une innovation.
Bon, une dernière question tout de même. Allez, le designer, là, quel est son rêve d'objet?
Non, j'ai pas de rêve. Le seul truc que je peux dire, c'est que là, moi, j'ai repris plaisir à dessiner grâce à ce projet. Parce qu'on maîtrise tout, toute la chaîne, et que ça donne beaucoup de sens à concevoir des choses quand qu'on comprend d'où la matière extraite, comment on la fabrique, avec la sueur de notre front, on le fait. Et du coup, quand on découpe un truc, on sait d'où ça vient, on sait qu'à la fin, on peut le récupérer, et même si on rate, on peut réussir à le recycler, donc ouf! Ça libère un peu de ce stress de gâcher de la matière. Voilà, en tout cas, ça donne beaucoup de sens. Et puis, il y a pas mal d'expérimentation parce que moi qui étais beaucoup derrière l'ordinateur, maintenant, je suis beaucoup debout à essayer des choses, à faire avec les mains, à toucher la matière. Et ça apporte beaucoup. Et on engrange pas mal d'expérience au fur et à mesure depuis qu'on a démarré, en connaissant rien, en fait, au plastique, en ayant des a priori, on chemine, on progresse, et c'est chouette. Et en plus, on peut partager ça maintenant avec d'autres, parce qu'on a des gens qui voient ce qu'on fait, qui nous appellent, nous aussi, on aimerait bien essayer. Et du coup, c'est super chouette de pouvoir partager ce qu'on a pu apprendre pour que d'autres fassent ça chez eux. Et c'est vraiment ce qui est motivant aussi à se lancer dans des aventures un peu comme ça, en disant que c'est même si c'est hyper local et qu'on a finalement un impact assez réduit, ça peut faire un peu boule de neige parce qu'on est on est plus tout seul, quoi. On partage cette expérience et elle est récupérée ailleurs, et ça c'est vraiment, vraiment chouette.
Et peut-être qu'on vous retrouvera dans les grandes boutiques de New York, comme tu le disais tout à l'heure.
En plus, j'avoue, on a hyper du mal avec ça. Dès qu'on doit envoyer un truc à plus de 200 km, on dit « Ouais, non, quand même, c'est pas hyper local ». Donc, on a hyper du mal avec ça. Donc, je pense pas qu'on finisse à New York. Mais peut-être que d'autres fabriqueront notre chaise ailleurs parce qu'on leur a partagé les plans. Et on croit beaucoup à plutôt se faire voyager l'intelligence que plutôt faire voyager les objets. Ça nous semble être certainement plus l'avenir, beaucoup plus l'avenir.
C'est peut-être comme ça qu'on peut être innovant, faire voyager les idées.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment le futur, et c'est ce qu'on voit beaucoup avec, et c'est l'esprit et Fab Lab, hein, beaucoup que l'expérience de certains est partagée avec d'autres, et finalement partager plutôt la connaissance que les objets, et que chacun récupère la potentialité de, enfin, se réapproprier des savoir-faire, etc., pour être capable chez soi d'être plus autonome, plus résilient. Et c'est vraiment les sujets de demain qui vont arriver très vite, je pense, de se réapproprier les choses et d'être le plus autonome et résilient possible.
C'était à la Fabunit. Ceci n'est plus un canoë, mais un tabouret. Avec Carole Tourigny et Thomas Merlin. Une réalisation RDIWA. À bientôt.